Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour son deuxième émission du mois consacrée à la défense et à la promotion des droits humains. Et Dieu sait que la promotion et la défense des droits humains, c'est important à l'époque qu'on vit, de plus en plus important d'ailleurs. Et donc, comme depuis des années et des années sur l'antenne de Principe Actif, comme je le dis à chaque fois. Et pour animer l'émission ce soir avec moi, il y a Claire-Lise.
Bonjour.
Et il y a Edith.
Bonsoir. Et il y en aura pour tout le monde.
J'ai envie de dire bonjour. Voilà.
Voilà. Et donc, mon petit doigt m'a dit que Claire-Lise, elle avait une petite dédicace personnelle à faire pour ce début d'émission. Donc, je lui donne tout de suite la parole.
Oui, et bien aujourd'hui, alors j'espère qu'ils ont trouvé, il y a Simon et Monique, qui nous écoutent depuis Vernon, voilà. Donc, je leur ai dit que je faisais une émission pour Amnesty. Je leur ai expliqué à quelle heure c'était. Et je pense qu'on n'aimait pas jusqu'à Vernon.
Ah oui,
donc, je leur ai expliqué qu'il fallait aller sur le site internet pour écouter en direct à partir du site.
La fréquence n'est pas bonne à Vernon, non, effectivement. Mais,
voilà,
mais sur internet, ça passe partout.
Principe Actif sur internet. Et les émissions.
C'est ce que je viens de dire.
C'est ça.
Voilà. Je voulais redire.
Sur Internet, on peut nous écouter partout dans le monde.
Le lien. Et puis d'un seul coup, j'ai fait je ne sais pas trop.
Donc voilà.
Et une dédicace, c'est tout. Tu ne leur racontes pas autre chose. Tu ne fais que. C'est secret. Bon, on est désolé, c'est secret.
Je ne vous dirai pas tout. Voilà.
C'est ça. Il y a deux auditeurs et auditrices qui sont privilégiés ce soir.
Voilà.
Eh
bien,
droit,
écoute, moi, je dédie cette émission à tous les autres auditeurs.
Et par ça, tu disais que c'était l'automne, qu'il pleut, tout ça.
Ouais, mais justement.
Il y a aussi, je pense aussi à toutes les familles qui sont toujours à la rue et qui n'ont toujours pas d'hébergement depuis il y a 15 jours, avec des enfants. Et ils sont nombreux à Évreux. Donc, pareil, si vous avez la possibilité d'héberger pour une nuit, pour deux jours, trois jours, une semaine, faites-vous connaître parce qu'il y a des enfants qui sont en situation difficile actuellement dans notre bonne ville d'Évreux.
Voilà, on vous redonnera nos coordonnées à la fin de l'émission, donc ne quittez pas l'antenne avant 20h et même après avec le laboratoire. Et donc pour commencer l'émission ce soir, on va vous parler d'information et d'un rapport qui vient de paraître fait par Amnesty International sur les droits des femmes, mais c'est Claire-Lise et Edith qui vont vous en parler.
Oui, c'est les meufs.
C'est les meufs.
C'est parce qu'on a dit Didier.
C'est un rapport sur les meufs. Résumé et présenté par des meufs.
C'est pas vrai.
C'est vilain. C'est vilain ce mot de meuf. Enfin, bref.
Bah oui, c'est vilain.
Voilà, mais non, mais c'est vrai que tout ce qui est au niveau des droits de la femme, on est quand même assez attentive toutes les deux. Et on sait, Didier, que tu es aussi très attentif par rapport à ça. Donc le dossier.
Mais on a envie de tout taquiner.
Le dossier qui est sur le site d'Amnesty, là, il suffit d'aller chercher amnesty.fr et vous trouvez. Donc c'est un dossier sur les violences sexuelles et sexistes. Et ces violences sexuelles et sexistes en France, leur chiffre est alarmant. Ce chiffre révèle l'ampleur de ce phénomène sociétal qui, malgré la libération récente de la parole des victimes, l'impunité règne et la réponse politique reste largement insuffisante. Alors, je pense que moi, j'ai trouvé que c'était très bien fait parce que il y a un petit encart au début qui nous dit de quoi parle-t-on quand on parle de violences sexistes et sexuelle. Et je pense que ça, c'est important pour tout le monde. Donc, je partage avec vous. Une violence sexiste est un acte préjudiciable commis contre une personne sur la base de son genre, de son identité de genre, son orientation sexuelle ou d'autres caractéristiques sexuelles. Voilà, la violence sexiste. Une violence sexuelle est une forme d'agression physique à caractère sexuel ou un rapport non consenti comme le viol. Alors si les hommes et les garçons peuvent être victimes de violences sexistes et sexuelles, ce sont les femmes et les filles qui sont les plus affectées. Il y a aussi les violences conjugales, le viol ou encore le harcèlement et le cyberharcèlement de personnes en raison de leur genre. Et cela, c'est aussi des violences sexuelles et sexistes. Alors, quelques chiffres, vous allez voir sur le site si vous voulez en avoir plus. Moi, j'en ai choisi. Alors, je le dis franchement, j'ai choisi des chiffres qui me parlaient, mais c'est très, très complet. Donc, pour les violences sexuelles, 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viols chaque année. Un viol ou tentative a lieu toutes les 6 minutes. Une agression sexuelle, toutes les 2 minutes. Les violences conjugales. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales au cours de sa vie. En 2022, tous les 3 jours, une femme a été victime de féminicide. Violences sexistes. 9 femmes sur 10 déclarent avoir personnellement subi une situation sexiste. 37% des hommes considèrent que le féminisme menace leur place dans la société. Didier est écœuré à côté. Je vous le dis franchement, parce que je pense que c'est pas mal d'avoir aussi sa réaction tout de suite. Harcèlement et cyberharcèlement. Une femme sur 3 est victime de harcèlement sur son lieu de travail. 81% de femmes disent avoir subi des harcèlements dans les lieux publics. 84% des victimes de cyberharcèlement sont des femmes. Voilà, ben c'est ce que j'ai choisi comme chiffre. Donc ça peut se discuter, mais je pense qu'ils sont quand même assez parlants. Donc le constat est là. Le sexisme et les violences qui en découlent sont loin d'être une histoire ancienne. Le sexisme se manifeste tous les jours, dans les rues, les transports, au travail, à l'école, à la maison, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Bien que la population se dise de plus en plus consciente des violations sexuelles et sexistes et assure les tolérer de moins en moins, les enquêtes le prouvent, les violences sexuelles ne reculent pas. En France, une minorité de femmes victimes de violences sexuelles et sexistes portent plainte. Lorsqu'elles souhaitent le faire, elles font souvent face à des questions culpabilisantes, une minimisation des faits ou une inversion ou à l'inversion de la responsabilité de l'agression subie. Elles rencontrent par ailleurs de nombreux obstacles dans leur parcours vers la justice, ce qui porte de nouveau atteinte à leurs droits. Et l'impunité des agresseurs règne. En France, 86% des plaintes seraient classées sans suite. Et seulement 6% des violeurs sont condamnés par la justice, selon le ministère de la Justice.
Non, 0,6%.
Non, 6% des violeurs. Ah, nous ne sommes pas d'accord. Non, c'est pas ça. Ah, bah alors, à vérifier. Alors, peut-être que mon imprimante. On va vous redire le chiffre après, à oublier une décimale.
De toute façon, 6%, c'est déjà très peu. Voilà, mais si c'est réellement, parce que moi, je n'ai pas le chiffre en tête non plus, mais si c'est réellement 0,6%, c'est pire que.
Je pense, oui. Enfin, on va vérifier.
C'est pire qu'intolérable.
Donc, aujourd'hui, les victimes de viols qui obtiennent justice y parviennent seulement après un long et pénible parcours de combattante. Alors, si la justice de genre est aujourd'hui au cœur des débats publics, il est urgent de mettre fin à l'impunité dont bénéficient les auteurs des violences. La culture du viol doit laisser place à la culture du consentement. On en avait parlé à Claire-Lise à la dernière radio. Partout dans le monde et en France, les États doivent faire appliquer ou mettre en place des lois pour lutter contre les violences sexuelles ou sexistes. Nous disposons d'un texte juridique international ambitieux en matière de violences faites aux femmes, la Convention d'Istanbul de 2011. Le texte, ratifié par la France et contraignant, oblige les États à protéger les femmes victimes de violences et à les soutenir. Ils sont tenus de mettre en place des dispositifs comme des numéros d'urgence, des centres d'accueil, des services médicaux et de l'aide juridictionnelle. Je voulais rajouter un A, mais ça ne va pas du tout. Alors bon, on va dire quand même qu'il y a des choses qui existent en France. Hein. Ce n'est pas du tout pour dire qu'il n'y a rien du tout, mais ça peut être encore en progrès. Et ce que pense Amnesty aussi, c'est qu'il est également primordial de promouvoir une culture du consentement, notamment par l'éducation sexuelle et affective à l'école et en mettant en place des réformes législatives cruciales pour changer les mentalités et les comportements. La société civile a déjà contraint de nombreux États à opérer la bascule. La notion de consentement est inscrite dans la loi de plusieurs pays européens. Et tu en parlais l'autre fois, Claire-Lise, et on aimerait bien qu'elle soit aussi inscrite par rapport à la condamnation du viol. Voilà, maintenant,
je peux prendre la suite.
Je vais laisser Claire-Lise prendre la suite et je vais aller vérifier le chiffre. Et
effectivement, donc, en France, accéder à la justice pour les femmes victimes de violences sexuelles reste un véritable parcours de combattante. Mais comment espérer obtenir justice quand il existe tant d'obstacles au dépôt de plainte ? Ces freins touchent de manière disproportionnée les femmes migrantes, transgenres et les travailleuses du sexe. Surexposées aux violences, elles hésitent néanmoins à franchir les portes d'un commissariat. Alors, partout dans le monde, donc, les chiffres envers les violences envers les femmes sont sidérants. Malgré les progrès réalisés par les combats féministes et l'élan donné par le mouvement MeToo, les violences sexuelles restent un fléau. Et trop rares sont les victimes qui osent porter plainte et ont accès à la justice. Toutes les 2 minutes en France, une femme est victime de viol, de tentative de viol ou d'agression sexuelle. 6% des victimes de viol, tentative de viol ou d'agression sexuelle subies ont porté plainte en 2021. Et 0,6% des viols ou tentatives de viol auraient donné lieu à une condamnation en 2020. Voilà, ce sont des sources qui ont été données par l'Observatoire national des violences faites aux femmes, enquête de victimation de l'INSEE, cadre de vie et sécurité. Voilà. Et donc, je voulais reprendre par rapport à une enquête qui a été menée par Amnesty International, une enquête approfondie pour comprendre les obstacles et les difficultés que ces femmes rencontrent, et notamment en faisant la lumière sur la situation des femmes migrantes, trans ou travailleuses du sexe, qui rencontrent des obstacles supplémentaires et spécifiques alors qu'elles sont déjà surexposées. Donc il y a eu un rapport qui a été publié par Amnesty, donc vous pourrez le retrouver, c'est « Rentrez chez vous, ça va passer », »,« Porter plainte pour violences sexuelles », »,« Les preuves des femmes migrantes », etc., qui démontrent que ces femmes sont victimes de nombreuses violations de leurs droits lors de leur dépôt de plainte. Alors comment avons-nous mené l'enquête ? Donc quand le dépôt de plainte devient une nouvelle violence, parce qu'il y a parfois un manque d'empathie, une culpabilisation, voire une accusation d'avoir agi de manière à mériter la violence. Et lorsqu'elles décident de porter plainte, les femmes victimes de violences sexuelles ne se confondent pas uniquement à leurs agresseurs, mais parfois à une nouvelle violence. Alors cela, ça concerne toutes les femmes, hein, pas que les femmes migrantes. Et donc une nouvelle violence, celle exercée par les institutions policières ou judiciaires. C'est ce qu'on appelle la victimisation secondaire ou la double victimisation. Voilà. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est encore pire quand les femmes, effectivement, sont migrantes. Certaines femmes surexposées aux violences sexuelles et souvent en situation de vulnérabilité, telles que les femmes transgenres, les travailleuses du sexe ou les femmes migrantes, rencontrent des obstacles et parfois des violences supplémentaires lorsqu'elles portent plainte. Elles se retrouvent prises dans un système où la violence et la discrimination se superposent et s'alimentent. Alors, l'accueil des victimes dans les commissariats est aléatoire et peut s'avérer particulièrement difficile. Alors, il y a des commissariats où ça se passe très bien, où il y a quelqu'un qui a été formé et où il y a un accueil qui peut être très bien fait. Mais souvent, nous avons documenté plusieurs situations où les gendarmes et policiers faisaient preuve d'une mauvaise application des procédures légales, comme l'orientation vers la main courante au lieu d'enregistrer la plainte et d'une méconnaissance des droits de ces personnes. Et donc, ces manquements soulignent la nécessité d'une formation approfondie pour les policiers et les gendarmes, afin qu'ils prennent mieux en compte les complexités des situations vécues par les femmes et appliquent les lois de manière à respecter et protéger leurs droits. Selon la loi, toute personne peut porter plainte, quel que soit son statut administratif, c'est-à-dire que même qu'elle soit en situation régulière ou non sur le territoire français, toute femme peut porter plainte. Toutefois, la réalité est souvent différente. Alors même qu'elle venait dénoncer des situations de violence sexuelle, certaines femmes en situation irrégulière ont subi des obligations de quitter le territoire français. D'autres ont été placées en centre de rétention puis expulsées en contradiction totale avec le droit national et international. Et parfois, les services de police orientent les victimes vers une main courante et ils refusent tout simplement d'enregistrer la plainte. Il y a aussi un problème d'interprétariat. La question de la barrière de la langue est aussi un frein important lors du dépôt de plainte. Et dans de nombreux commissariats, notamment dans les territoires outre-mer, l'absence d'interprète pour les langues moins répandues, telles que le sranantango ou le créole haïtien, constitue un obstacle significatif. Ce défaut d'interprète a un effet dissuasif pour les femmes qui peuvent décider de renoncer à porter plainte faute de pouvoir être comprises. L'accès à une interprète est pourtant un droit garanti pour toute personne ne maîtrisant pas la langue française. Et quand les personnes viennent, il n'y a pas d'interprète dans leur langue, donc on leur donne un rendez-vous plus tard. Parfois, il n'y a toujours pas d'interprète au moment du rendez-vous. Et dans certains commissariats, où on a demandé à certains des bénévoles, notamment russophones ou arabophones, de faire la traduction alors qu'ils ne sont pas assermentés. Voilà. Donc ça a été
reconnu dans l'enquête.
Dans l'enquête, voilà. Et donc c'est un parcours de combattantes, hein, parce qu'elles sont confrontées à plusieurs formes de discrimination. Et l'approche intersectorielle pour comprendre les obstacles au dépôt de plainte. Donc l'approche intersectorielle, Tony Nel, permet d'analyser la manière dont plusieurs discriminations se croisent et se renforcent pour une même personne.
Bah, c'est sûr, voilà.
Donc, dans notre étude, il s'agit des discriminations liées au genre pour les femmes transgenres, au statut administratif pour les femmes migrantes ou à la profession de travailleuse du sexe qui viennent souvent se cumuler pour une seule et même personne. Et donc, ces femmes surexposées aux violences sexuelles se heurtent à des préjugés, notamment lorsqu'elles veulent déposer une plainte. Par exemple, une femme migrante sans papier, qui est également travailleuse du sexe, peut être stigmatisée en raison de sa situation administrative, de son identité raciale et de son activité. Ces préjugés peuvent affecter l'accueil qu'elle recevra au commissariat, et où elle pourrait ne pas être prise au sérieux ou être confrontée à un refus de prendre sa
place. C'est pas compliqué. À ce moment-là, on dit, mais attendez, madame, voilà, vous vendez votre corps, vous savez bien que vous risquez des choses. Enfin, voilà, il y a tout un discours derrière qui est complètement, qui ne reconnaît pas la femme en tant que victime. Hein,
et donc, dans l'enquête, en adoptant une approche intersectorielle,
c'est-à-dire quand
intersectionnel, c'est
mieux
ça.
Mieux identifier les réponses inadaptées des institutions et exiger des solutions pour garantir que ces femmes puissent faire valoir leurs droits. Et donc les femmes demandeuses d'asile ont un risque 18 fois plus élevé d'être victimes de viol. Une femme sur deux n'a sollicité aucune aide à la suite des violences subies. Et une femme sur 10 a sollicité les services de soins ou de police. Voilà. Sachant que dans leur parcours de famille,
c'est ce que j'allais dire. Elles ont souvent
subi des atrocités au pays, et je pense à plusieurs femmes dont j'ai fait le récit, et ça reste ancré en elles. Et souvent, ce sont des viols qui sont faits devant leur mari ou devant leurs enfants. C'est particulièrement.
C'est la femme qui, à ce moment-là, est victime pendant les conflits.
Femme victime pendant les conflits, mais après. Pendant le parcours migratoire, elles sont en situation de vulnérabilité, elles se font violer
parce que...
Et quand elles arrivent en France et qu'elles ne sont pas hébergées et qu'elles sont
à la rue, et à la rue, c'est très... Voilà,
c'est
en danger.
C'est la double, la triple, la quadruple peine. Quoi.
Voilà. Et toujours parce qu'on est femme.
Donc, il y a eu 19 associations rencontrées dans le cadre de notre enquête qui sont unanimes. Les femmes migrantes sont les plus réticentes à porter plainte pour violences sexuelles. Elles sont non seulement victimes de stéréotypes racistes au sein des commissariats, mais elles craignent également des représailles en raison de leur statut migratoire. Voilà. Donc c'est vrai qu'on les encourage, nous, quand on les reçoit, à porter plainte, et on les accompagne. Quand
les accompagne, ce soit voilà. L'accompagnement, c'est important. Les associations qui sont autour d'elles, parce qu'on peut imaginer que toute seule, enfin avoir confiance en plus dans une autorité quand on a un vécu comme ça, et qu'ici, en France, l'accueil est aléatoire, on va dire, c'est quand même très compliqué.
Juste vous dire aussi que donc, au-delà des stigmatisations, les femmes sans papier font face à la menace directe et illégale de l'expulsion du territoire lorsqu'elles tentent de porter plainte. Certaines associations comme Accepté ou l'ACIMAD racontent comment des femmes en situation irrégulière venues dénoncer des violences sexuelles ont reçu des OQTF ou ont même été placées en centre de rétention. Et donc ces expulsions sont illégales au regard du droit national et international, qui permet à toute personne, quelle que soit sa situation administrative, de porter plainte pour des violences sexuelles. Et ça, c'est un petit peu en dehors de notre sujet, mais pour sortir de la prostitution, il existe aussi un titre de séjour pour aider ces femmes qui ont été victimes de traite des blanches, qui ont été victimes de réseaux de prostitution, pour les aider à s'en sortir. Elles sont accompagnées par des associations et il existe un type de séjour pour ces femmes.
Voilà, spécifique pouvoir faire qu'elles...
On prend en compte les raisons qui les ont poussées à demander à avoir accès au séjour en France. Et c'est un type de séjour... Bon, c'est pas marqué sur le titre de séjour, hein, mais... C'est
elles y ont droit de par leur vie.
Oui. Voilà.
Et moi, je peux dire aussi, simplement, pour résumer, c'était très... Très intéressant, Claire Lys, ton résumé est très bien fait.
0,6%.
Voilà, vous pouvez aller voir sur le Facebook Amnesty.
Facebook.
Amnesty. Bah, oui, enfin, voilà. Amnesty, donc Amnesty International Évreux, avec un petit accent sur le E majuscule, où on a pu mettre aussi des petits résumés. Donc, il y en a un qui est fait par Amnesty, l'autre qui est fait par Infomigrant-français et qui résume ça de façon très claire et avec des petits dessins un peu plus humoristiques et, si l'on peut dire, enfin un peu plus légers, on va dire, qui résument là, qui sont intéressants pour les connaître rapidement. Voilà.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur Facebook. On va passer la première pause musicale. Et je voulais juste, alors juste pour faire un petit commentaire sur ce qu'a dit Edith tout à l'heure, quand elle parlait des hommes qui se sentaient, comment dire, remis en cause par les mouvements féministes, ça me fait toujours penser pourquoi est-ce qu'effectivement des mouvements qui doivent permettre aux femmes d'avoir l'égalité des droits, d'avoir l'épanouissement personnel, etc., etc., qui sont considérés comme normaux pour les hommes et qu'elle revendique à tout à fait à juste titre, pourquoi ces mouvements-là devraient remettre en cause la place des hommes. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument sidérant. On est juste tous des êtres humains. Quoi, je veux dire, voilà. Donc, c'est tout à fait normal que le féminisme existe et, bien évidemment, on espère qu'il continuera encore à avoir de nombreuses victoires. Voilà. Ça, c'était pour expliquer pourquoi ça m'énerve d'entendre ce genre de commentaires de la part des mecs. Voilà.
Alors, musique
et on se retrouve juste après. What are you saying? Don't wanna try again. Give it another shot, another chance. You want to never make amends. You want to never wonder. But see, I'm already on my way. I'm taking over. What are you saying? You don't wanna feel the pain. You want things to never change. So tired, filled with crumbling icons. All that we once admired won't see another dawn. Oh, I won't go back. Oh, I found another place. Don't
anyway. What are you saying? Is there no other way? It's getting late, can't you see? Oh, my hope is shifting. Here I stand a chance. Here I can relate. Oh.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission sur la promotion et la défense des droits humains. On vient d'entendre Jeanne Haddad. C'est une Française, même si elle chante en anglais. Et le morceau s'appelait Another Place. Et simplement, c'est un petit clin d'œil. J'ai choisi ce morceau. C'est un petit clin d'œil pour nos amis du Tangram, puisque Jeanne Haddad est programmée par le Tangram. Et elle sera en concert samedi prochain. Samedi 28 septembre, samedi prochain à 19h30 au théâtre. Donc voilà, si le morceau vous a plu, n'hésitez pas à prendre vos places pour aller voir Jeanne Haddad au théâtre samedi qui vient. Voilà. Donc, je vais garder la parole.
Ah,
puisque
toi Didier, c'est, on a c'est assez ça. Parlé.
Je voulais revenir dans le cadre de ces émissions sur un petit résumé, sur un gros document.
Oui, mais t'as pas beaucoup de temps.
Un gros dossier.
Nous allons le chronométrer.
J'ai quand même quelques minutes. Fait par Amnesty, donc c'est le numéro
voilà,
de la chronique.
C'est la chronique, parce qu'il faut s'abonner à la chronique.
C'est ça, la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. C'est... Et c'est un dossier qui est paru cet été. Non, au mois de septembre, pardon, pas cet été, au mois de septembre. Et qui s'intitule « Attaque contre les ONG », parce que c'est vraiment effectivement quelque chose qui se généralise à l'heure actuelle et qui est extrêmement inquiétant. Et l'enquête est présentée de la façon suivante. Notre enquête, donc, essaie de comprendre d'où viennent ces attaques, quels en sont les ressorts et surtout les conséquences. Et selon la juriste Laurence Burgoyne-Larsen, la remise en cause des droits humains est un phénomène mondial. Alors je ne vais pas du tout vous lire tout l'article, ce serait beaucoup trop long. J'ai sélectionné quelques passages et je vais faire deux ou trois commentaires entre chaque passage. Voilà comment ça commence. Samedi 15 juin, sur la chaîne d'info en continu CNews du groupe Bolloré, le journaliste Lionel Rosso et ses chroniqueurs présentent une émission sur la manifestation parisienne de l'après-midi contre l'extrême droite. Pendant une heure, ils débattent de l'hostilité des Français à l'immigration. Puis Lionel Rosso ose une question piquante. Cette déclaration des droits de l'homme n'est-elle pas caduque dans notre société, dans la France d'aujourd'hui ? Afin d'être bien compris, il précise, répond-elle aujourd'hui aux questions que pose l'immigration ? Et conclut, il me semble que la réponse soit non. Inadaptés à notre histoire, les droits humains ? Ringardisés par le réel ? Les journalistes de ce plateau télé ne les présentent plus comme une boussole, mais comme une idéologie démodée. Cette conception péjorative des droits humains s'accompagne d'une série d'attaques contre les ONG qui les défendent. Amnesty International, par exemple, dont les rapports dénoncent les manquements aux droits fondamentaux de tous les États, sans exception, s'est plusieurs fois retrouvée ciblée. Le 1er février 2022, elle a vu déferler une vague d'attaques inédite par son ampleur. Ce jour d'hiver, Amnesty International publie un rapport sur le système d'oppression et de domination qu'exerce Israël sur la population palestinienne. Le document détaille des violations constituant un crime d'apartheid, défini par le droit international. Amnesty International est loin d'être la seule à employer ce mot « apartheid ». Mais le rapport d'Amnesty International va se trouver attaqué par plusieurs grands médias et le gouvernement français. à commencer par l'ancienne ministre chargée de l'égalité, Aurore Berger, qui le 24 février, lors du dîner actuel annuel du Conseil représentatif des institutions juives, le CRIF, dénonce la campagne scandaleuse d'Amnesty International et va jusqu'à soutenir que les associations qui détournent de leur sujet initial et professent la haine doivent être démantelées. Voilà, c'est une ministre qui a dit ça. Le magazine Le Point accuse Amnesty International de mensonges historiques. Un chroniqueur du Figaro dénonce l'infamie de l'organisation. L'opprobre jeté sur notre ONG fait tache d'huile. Les mois suivants, dans la ville de Chennai, mais aussi à Versailles, Aix-en-Provence, Marseille ou Orléans, des maires, une université ou des associations culturelles locales annulent les conférences de l'organisation portant sur la question israélo-palestinienne. Un peu plus loin, donc on va passer quelques pages du rapport, mais un peu plus loin, dans le même ordre d'idée, il est dit « Le schéma est toujours, donc le schéma des attaques, est toujours identique. Une attaque est lancée dans un média, plus les réseaux sociaux la reprennent en propageant des injures et des menaces. » Alors, par exemple, le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, que les gens d'Amnesty connaissent bien, s'est fait qualifier de sale pute, on n'invente rien, de sale pute de merde, de cafard, et il leur a été dit « on va vous défoncer ». Vivement que le Rassemblement national arrive pour pouvoir vous éradiquer. C'est le genre de commentaires effectivement qui arrivent sur les sites et les réseaux sociaux alimentés par ces ONG. Cette critique des ONG n'émane pas uniquement des médias. Le pouvoir politique, comme on l'a vu, la diffuse lui aussi, notamment Emmanuel Macron. Il s'est mis à nous traiter de complices des passeurs à propos des sauvetages en mer, déplore Jean-François Corti, président de Médecins du Monde. Médecins du Monde, c'est plus la peine de vous le présenter. Et maintenant, les gens du Rassemblement national nous décrivent carrément comme des criminels et des complices des terroristes. Voilà, c'est une complète inversion de la vérité. La répétition de ces attaques, le climat de défiance qu'elles entretiennent, inquiète. Et pas seulement les ONG qui en font les frais. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, Michel Forst, écrit en février 2024. L'État français criminalise les ONG de défense des droits humains et s'en sert pour restreindre l'exercice des libertés fondamentales. Mais pourquoi ? Julien Talpin est sociologue au CNRS, spécialiste des discriminations. En 2015, après l'attentat du Bataclan, dit-il, le président Hollande a instauré un état d'urgence. Des ministres ont pu déroger aux droits, dissoudre des organisations, interdire de manifester, multiplier les convocations policières. Cette volonté de lutter contre l'islamisme radical a poussé ensuite l'État à renforcer son contrôle sur les associations et toutes les ONG du pays. Donc c'est un des éléments de réponse à cette généralisation des répressions. Alors plus loin dans le dossier, il est cité effectivement une attaque dont a été victime Amnesty de façon très unilatérale et très violente suite aux événements du 7 octobre, c'est-à-dire l'attaque du Hamas du 7 octobre de l'année dernière, l'attaque du Hamas contre les civils israéliens. Alors les fake news discréditant les ONG ont inondé la toile et certains médias. Alors là, je ne vais pas tout vous lire, mais moi, ça m'avait frappé à l'époque. Ce qui était reproché à Amnesty, mais de façon extrêmement violente, y compris par des journalistes, des organes de presse, Le Point, L'Express, enfin, etc., et des émissions de télévision, c'était qu'Amnesty refusait de cataloguer les crimes commis par le Hamas d'actes terroristes. Tout simplement parce que le mot terrorisme n'est pas défini au niveau du droit international sur lequel Amnesty fonde toutes ses enquêtes. Mais Amnesty a dénoncé ces crimes dès le premier jour et a dit que le Hamas se livrait à des crimes de guerre. Donc c'était tout à fait clair. Mais comme le mot terroriste n'était pas employé par Amnesty, Amnesty a été catalogué des pires infamies de part un certain nombre de détracteurs. Et Jean-Claude Samouyé, le président de l'époque, a dû effectivement batailler et a été insulté et même menacé de mort, a dû batailler suite effectivement à cette prise de position qui pourtant était extrêmement claire pour dénoncer les crimes du Hamas. Et dans ce dossier, dont je vous recommande la lecture, hein, donc allez sur,
il est très bien
allez lire la chronique du mois de septembre, vous pouvez la commander sur
on
le site.
On peut vous la prêter, vous nous demandez.
On peut même vous la prêter aussi, bien sûr. Par cette interview dont je vous en parlais au début de la juriste Laurence Bourgogne-Larsen, et je vais simplement citer un petit passage de cette déclaration. Alors, la question qui lui est posée, c'est cette rupture assumée avec les droits humains existe aussi en France, donc comme on l'a vu, comment l'expliquer ? Parce qu'elle parle aussi de ce qui se passe à l'étranger. Elle répond « Par le désenchantement, l'après-guerre a couplé la démocratie libérale avec la protection des droits de l'homme. Or, cette démocratie, forcément imparfaite, n'a pas donné satisfaction, notamment sur la question de la justice sociale. De fait, les droits de l'homme sont assimilés à cet échec. Et quand des populations se paupérisent, elles ne supportent plus que l'on donne des droits à tout le monde, en particulier aux étrangers. C'est dans cette brèche que s'engouffrent les extrêmes et le populisme, qu'ils soient de droite ou de gauche. » Voilà. Donc c'était vraiment des tout petits extraits de ce dossier, mais qui est vraiment extrêmement bien fait et qui montre que la situation est extrêmement inquiétante.
Voilà. En sachant que les fake news tombent dans des médias qui sont des médias d'opinion, on va dire,
oui, oui.
Et qu'à partir de là, le fait qu'elles soient relayées à une vitesse grand V sans aucune récupération, et le fait même de dire que la parole, quand tu parlais de Jean-Claude Samouyé qui avait dénoncé en disant « attendez, c'est un terme qu'on ne va pas dire, mais on dénonce les massacres », est à peine repris, parce que le poids de la vérité va sur le premier qu'a causé, quand c'est de la fake news, voilà, c'est ça aussi qui est très...
Juste rappeler aussi que l'année dernière, quand il y a eu les manifestations contre les super bassines, c'est la Ligue des droits de l'homme qui a été menacée en France,
il en est question dans
le
dossier,
à la limite menacée de dissolution au niveau du ministère de l'Intérieur.
Ils voulaient sucrer leurs subventions.
Voilà, sucrer les subventions.
C'est aussi dans le dossier,
mais bon, j'ai
dit...
Au niveau
de l'écologie.
Je vais peut-être un peu loin en disant menacée de...
Ils voulaient couper les financements de l'État.
Oui, enfin, voilà, je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais je pense que le mot n'est pas exact.
Ce qui est une façon de faire taire.
Voilà,
ce qui est une façon de faire taire les gens.
Pour le mouvement, je cherche le nom là.
Les trucs de la terre.
Les soulèvements de la terre. Mais ça, le fait de couper les subventions, c'est ce qui a été fait aussi en Inde par rapport à la section indienne d'Amnesty, qui a dû officiellement arrêter ses travaux et licencier son personnel parce que le gouvernement indien avait coupé la possibilité du financement du mouvement en Inde. Voilà. Donc c'est une façon de réprimer aussi tout à fait évidente.
On rappelle qu'Amnesty est complètement indépendante,
oui.
Qu'on ne demande pas de subvention. Donc ce que l'on dit, c'est nous qui le disons et on n'est pas, on dépend pas d'un financement quelconque.
Amnesty ne touchait pas non plus de l'argent de l'État indien, enfin des autorités indiennes, mais touchait de l'argent du mouvement mondial. Voilà.
Alors allez, parce que ça nous passionne tous, mais allez voir la chronique du mois de...
Septembre.
Et
juste pour finir, un petit commentaire, même si on m'a parlé de l'horloge, mais c'est juste pour dire que les gens qui sont très violents contre les libertés des ONG réclament ces mêmes libertés pour eux-mêmes, comme par exemple le droit à l'information que réclament les chaînes de Bolloré qui sont menacées à l'heure actuelle de suspension d'émission, et ils disent que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Mentir n'a jamais rien eu à voir avec la liberté d'expression. Voilà, je vous relaisse la parole, mesdames, puisqu'on me fait sentir que j'étais trop long.
Mais non, mais on est passionnés, et voilà. Donc,
mais la troisième partie va être tronquée.
Eh bien, moi, je fais vite, rapidement. Alors, je suis dans la même, à peu près les mêmes idées, un petit peu, que Didier vient d'évoquer. Je ne sais pas si vous connaissez le Forum pour la gouvernance d'Internet. C'est une grande réunion qui a lieu tous les ans. Alors, cette année, elle a lieu du 15 au 19 décembre 2024. Et l'un des thème clé du forum annuel sur les politiques publiques numériques qui se tiendra donc cette date-là, c'est la promotion des droits humains à l'ère numérique. Bravo, vous allez tous me dire, c'est super. Mais moi, je vais vous dire où ça va avoir lieu. Eh bien, ça va avoir lieu en Arabie Saoudite.
Oh, bah, c'est un pays qui respecte pourtant tous les droits
fondamentaux,
c'est bien
connu.
Eh bien,
il y a 40 ONG et d'organisations de défense des droits humains, dont Amnesty, qui sont quand même assez horrifiés et qui soulignent l'hypocrisie de l'Arabie Saoudite qui accueille cet événement alors qu'elle incarcère ses détracteurs et les soumet à des disparitions forcées et à des actes d'intimidation en vue de les réduire au silence. Donc, il y a 100 jours aux autorités saoudiennes. Il en reste 100 jours avant l'ouverture du forum sur la gouvernance. Et elles doivent saisir cette occasion pour démontrer qu'elles vont desserrer leur étau sur la liberté d'expression et mener de véritables réformes et non se contenter d'une campagne destinée à se donner une image positive. C'est Agnès Calmar, la secrétaire générale d'Amnesty, qui leur demande. Car il va falloir prouver que le fait d'accueillir une conférence sur l'avenir d'Internet est plus qu'un exercice cynique de relations publiques. Elles doivent libérer toutes les personnes détenues arbitrairement pour avoir exercé en ligne leur droit à la liberté d'expression avant le forum sur la gouvernance d'Internet ne débute. Donc, j'ai quelques cas de personnes, je vous en cite juste un parce que j'ai des gros regards autour de moi. Là. Et ma liberté de parole est diminuée. Donc, Salma Al-Shehab, arrêtée en janvier 2021, elle a été condamnée en janvier 2023 à l'issue d'un procès manifestement inique à une peine de 27 ans de prison, suivie d'une interdiction de voyager de 27 ans pour de fausses accusations de terrorisme simplement parce qu'elle avait posté des tweets en faveur du droit des femmes. Autre cas inquiétant, le tribunal pour Ma'ahed Al-Otaibi a été condamné à 11 ans de prison pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages en faveur des droits des femmes et des photos d'elle sans abaya, la fameuse tunique traditionnelle. Je ne vous en dis pas plus, mais on va suivre cette affaire et vous vous rendez compte un peu aussi où les autorités peuvent mettre... qui a décidé que ce forum va
avoir lieu en Arabie Saoudite.
On va dire des histoires de gros sous.
Je pense. On va donc passer la deuxième pause musicale. On se retrouve juste après.
Yo, papa ! Spéciale dédicace à tous les quartiers sensibles placés en zone d'éducation prioritaire. C'est la main de Dieu, la main de Dieu qui m'a guidé pour cette chanson. Rastafari, filet de petite racaille en casquette. Le manque de tendresse vous a rendu tellement dur. Vilaine petite racaille en casquette. Sous cette énorme carapace, y'a un petit cœur en miettes. Vilaine petite racaille en casquette. Et quand une fille vous brise le cœur, dites-vous qu'au fond c'est pas si grave. Vilaine petite racaille en casquette. En tout cas c'était pas une raison pour la brûler dans la cave. Allez à vous.
On était vilaine racaille en casquette. Pour pas passer pour des bouffons, nous on doit faire de la prison. On est des vilaines racailles en casquette. On fait plein de meufs, plein de grosses bagnoles, et puis passer sur M6.
Malheureusement, vilaine racaille en casquette. Chaque fois qu'il y a la télé qui vient chez vous pour filmer votre quartier, c'est toujours pour faire ces sales reportages à la con qui incite les agriculteurs à voter pour l'extrême droite.
En fait, dans les quartiers, le vrai problème, c'est la misère. Si les pauvres, ils seraient tous blancs, et ben ce serait la même galère.
Mais heureusement, c'est pas le cas, comme ça on peut être raciste. Et puis en matière de racisme, les arabes, les noirs, les jaunes, ah, vous êtes pas tout blancs non plus. Alors qu'est-ce qu'on attend, les petits amis? Donnons-nous la main, et allons faire l'amour, l'amour que vous n'avez jamais eu. Donnons-nous la main, quand vous, je serai troubadour, et on fera tous ensemble des gros câlins tout nus. Et on sera plus jamais seul.
Putain, hey, j'arrive pas à danser moi sur cette musique, ça me donne envie de vomir.
Vilaine petite racaille en casquette. Et quand vous sortez seul le soir pour taguer des arrêts de bus, vilaine petite canaille en souquette. Si tu veux j'irai avec toi pour corriger toutes les fautes. Donnons-nous la main et allons faire l'amour. Des chatouilles, des papouilles, des guilis, guilis, guilis. On parlera de la Bible, on parlera du Coran. Et à la fin on sera d'accord pour dire que non, t'es pas ces petites bites de bouddhistes qui auraient assez de convictions religieuses pour s'enfiler eux-mêmes une ceinture d'explosifs autour du bide, histoire d'en finir avec ces fumiers de bouffeurs de récantonner Chintok. Et c'est sûrement ça qui prouve qu'en fait, le bouddhiste, non, c'est pas vraiment une religion.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on vient d'écouter quelqu'un qui passe pas souvent à la radio, il s'appelle Didier Super. On l'avait vu au festival Ça sonne à la porte, pas celui de cette année, mais celui de l'année dernière. Et il repasse, c'est pour ça qu'on vous a passé le morceau, parce qu'il est assez drôle quand même, mais il dit des choses très justes, avec beaucoup d'humour. Et il passe au festival, alors je vais vous dire ça tout de suite, le festival qui aura lieu ce week-end. Les Arts à la Mare. Donc ce week-end, vous pouvez aller voir Jade Aded au théâtre, mais il y a aussi le festival Les Arts à la Mare à Plainville, sur deux jours, samedi 28 et dimanche 29. Et je crois qu'il est programmé, le dimanche 29. Ouais. Voilà. Il s'appelle Didier Super. Je crois que Claire-Lise voulait vous parler du Liban.
Oui. Donc, je vais vous parler de ce qui s'est passé tout dernièrement et qui a fait effectivement l'actualité. Des explosions de masse simultanées par l'intermédiaire d'appareils électroniques au Liban et en Syrie ont fait plus de 2931 blessés et pas moins de 37 morts, dont au moins 4 civils. Donc, nos équipes de recherche ont enquêté sur ces attaques au beeper et au talkie-walkie. Et que faut-il retenir ? On fait le point en 7 questions-réponses. Premièrement, que s'est-il passé au Liban les 17 et 18 septembre 2024 ? Donc le 17 septembre, entre 15h30 et 16h30, des engins explosifs dissimulés dans des milliers de beepers à travers le Liban ont explosé, faisant au moins 12 morts, dont une fillette de 9 ans, un garçon de 11 ans et deux soignants, et au moins 2323 blessés pour la journée du 17 septembre. Le lendemain, le 18 septembre, peu avant 17h, d'autres appareils électroniques ont explosé de manière simultanée à travers le pays. Des explosions ont été signalées dans la banlieue sud de Beyrouth, dans des villes et localités du sud Liban et dans la Beka. Et ils ont fait au moins 25 morts et 608 blessés. Ces explosions ont eu lieu dans des supermarchés, des voitures, des rues résidentielles et d'autres zones publiques très fréquentées, causant des lésions traumatiques, semant la terreur et la panique à travers le Liban et submergeant un secteur de la santé déjà frappé par une crise économique aiguë. Bien que le gouvernement israélien n'ait pas officiellement commenté les attaques, le 18 septembre, le ministre israélien de la Défense a déclaré que la guerre avec le Liban entrait dans une nouvelle ère et a salué les excellentes réalisations des services israéliens de sécurité et de renseignement. Des propos interprétés comme une reconnaissance implicite du rôle d'Israël dans ces attaques. Des responsables libanais et américains ont également indiqué qu'ils pensent qu'Israël les a orchestrés. Donc l'utilisation d'engins explosifs dissimulés dans des appareils de télécommunication courants pour mener des attaques meurtrières d'une telle ampleur est sans précédent. Dans quel contexte ces attaques ont eu lieu ? Donc elles ont lieu dans le cadre de l'escalade des hostilités entre Israël et le Hezbollah. Depuis les 11 derniers mois, depuis effectivement les attaques du 7 octobre. Et d'après les autorités israéliennes, le Hezbollah et d'autres groupes armés ont tiré des projectiles sur le nord d'Israël et tué 14 civils. Et le 27 juillet, 12 enfants ont trouvé la mort dans une attaque contre la ville de Majal Sams sur le plateau du Golan occupé. Donc Israël a rejeté la faute sur le Hezbollah, qui a nié toute responsabilité. Enfin, il y a une escalade sans fin sur des actes pendant le conflit armé entre Israël et les pays autour. Donc comment Amnesty a-t-elle enquêté ? Donc Amnesty s'est entretenue avec 8 témoins, avec le ministre libanais de la Santé, 2 médecins, 2 psychologues et une source des services de sécurité. Notre Crisis Evidence Lab a analysé 19 photos et vidéos des explosions et de leurs conséquences. Et le laboratoire d'Amnesty International en particulier a analysé 12 vidéos montrant des téléavertisseurs explosant dans des zones civiles très fréquentées, telles que des rues résidentielles, des épiceries, ainsi qu'au domicile de personnes. Une vidéo vérifiée de la zone d'horizon de Beyrouth montre des grandes prunes de fumée au-dessus d'au moins 10 endroits dans des zones résidentielles.
Des panaches.
Des panaches, oui. Donc le secrétariat d'Amnesty International a également écrit au bureau du Premier ministre israélien et au ministère des Affaires étrangères pour leur demander de répondre aux allégations selon lesquelles Israël serait responsable des attentats. Donc on a recueilli des témoignages. Donc c'est un petit peu long, je ne vais pas vous raconter tous les témoignages, mais seulement ceux des médecins. Donc selon Georges Gamnem, médecin-chef du centre médical de l'Université américaine de Beyrouth, l'hôpital a été submergé de patients blessés, nécessitant tous à peu près les mêmes soins. Tout le monde avait des blessures aux mains, beaucoup d'amputations et des lésions oculaires définitives. Un garçon de 11 ans est mort, il souffrait de graves lésions cérébrales. Il était avec son père qui était en possession du beeper. Un ophtalmologue de l'hôpital universitaire du Mont Liban à Beyrouth a déclaré aux médias qu'environ 60 et 70% des patients qu'il a soignés ont dû subir l'ablation d'au moins un œil. Pour certains patients, nous avons dû procéder à l'ablation des deux yeux. Cela me tue. J'ai retiré plus d'yeux hier, en parlant du 17 septembre, qu'en 25 ans de pratique.
Ouais, ça, c'est absolument insupportable.
Voilà. Donc, comment notre enquête a-t-elle permis de recueillir des éléments de preuve? Donc, c'est le laboratoire de preuves d'Amnesty hein, qui a analysé ces vidéos. Donc, on en parlait tout à l'heure, dans lequel on voit les beepers exploser dans des endroits très fréquentés. Et d'après les éléments de preuve dont dispose Amnesty, les beepers ont été distribués aux combattants du Hezbollah, mais sans doute également à des employés des institutions du Hezbollah qui occupent des fonctions civiles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de civils qui ont été touchés, pas que des membres supposés.
Et les membres du Hezbollah, ils ont de la famille aussi, il faut se dire ça. C'est ça. Quoi.
Bah, le petit enfant, là, il n'était pas pour grand-chose. Hein. Wow. Donc, par ailleurs, notre laboratoire a analysé les images des beepers détruits. Ils correspondent au modèle AR-924 Gold Apollo Rugged. Et une source spécialisée en sécurité a indiqué que le Hezbollah en avait commandé environ 5000 au début de l'année. Donc voilà. Donc l'attaque a probablement été perpétuée à l'aide d'un petit engin explosif télécommandé, dissimulé dans un lot modifié de beepers. Et les explosions que l'on voit dans les vidéos correspondent à la détonation d'une petite quantité d'explosifs pouvant être contenue dans ce type de petit appareil électronique. Voilà. Alors ensuite, d'après la défense civile libanaise, son personnel s'est efforcé d'éteindre les incendies qui se sont déclarés dans 60 maisons et boutiques, 15 voitures et des dizaines de motos à la suite de l'explosion des talkie-walkie. Ces attaques ont aggravé la peur et le traumatisme au sein d'une population libanaise déjà confrontée à la menace imminente d'une escalade de guerre avec Israël. Ces attaques étaient menées dans le cadre d'un conflit armé. Est-ce que le droit s'applique? Donc, si la responsabilité d'Israël est établie, alors ces attaques ont eu lieu dans le contexte d'un conflit armé en cours. Dans ce cas, il faut évaluer leur légalité sur la base du droit international humanitaire ainsi que du droit international relatif aux droits humains pertinents qui continue de s'appliquer dans les situations de conflit armé. Cela concerne tout particulièrement le droit à la vie, comme l'a affirmé le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et donc, ces attaques violent-elles le droit de la guerre? Le droit international humanitaire interdit les attaques menées sans discernement, c'est-à-dire qui n'opèrent pas de distinction entre les cibles civiles et militaires. Donc, il prohibe également l'utilisation du type d'objet piégé qui semble avoir été utilisé. Donc, les éléments de preuve indiquent que les auteurs ont planifié et exécuté ces attaques et ils ne pouvaient pas vérifier qui d'autre, dans le voisinage immédiat des dispositifs, serait blessé au moment de l'explosion, ni même si seuls les combattants avaient reçu les téléavertisseurs et les radios. Donc, du coup, le fait que les explosions aient été réalisées à l'aide d'outils de la vie quotidienne des civils, l'impossibilité pour les auteurs de connaître l'identité de tous ceux qui ont reçu les engins, de ceux qui les utiliseraient et de ceux qui se trouveraient à proximité, sont autant de facteurs qui indiquent que les attaques ont été menées sans discernement et donc illégalement, et donc c'est un crime de guerre. Voilà,
tout
j'ai
fait.
Raccourci parce que je vois que le temps passe et je n'ai pas mais... de vilaine avec vous.
Non, là, c'est pour une
la,
fois.
Et
aussi...
c'est pourquoi nous demandons
pour une fois,
qu'une
reste
enquête
un peu de temps,
internationale
quoi.
Soit ouverte afin que les auteurs des explosions soient tenus pour rendre des comptes.
Et aller sur le site d'Amnesty, mais tu as très bien résumé, si vous voulez avoir la totalité de,
bah,
de
c'est l'article. Très frappant. Alors, c'est pour en remettre une couche parce qu'on va encore accuser un certain État d'avoir commis des crimes de guerre. Mais voilà,
bah
c'est
oui,
la réalité.
Mais bien sûr. Non, mais
alors, est-ce qu'on peut terminer juste sur
oui.
le film?
Oui.
Ah oui,
voilà.
Le film. Oui.
Oui. Parce que là, voilà.
On a aussi plein de bonnes nouvelles, mais je crois qu'on va les garder pour la
oui,
prochaine
oui,
fois.
Oui, oui, oui. Oui. Voilà. Mais, bah, ce film,
mais quelques mots sur le film.
On est allé voir un beau film hier soir.
Qui passe, qui est soutenu par Amnesty. C'est Les graines du figuier sauvage. Et c'est un film qui est fait par un réalisateur iranien. Donc, je vous cherche le nom pour pouvoir le prononcer de façon correcte. Attendez,
Mohamed Rasoulof.
Rasoulof. Alors, c'est un film qui va être encore toute cette semaine, qui dure assez longtemps. Donc, il y a une séance en fin d'après-midi, une séance à 20h.
Ok, ça passe à Évreux.
Voilà, c'est... donc ce réalisateur a été en prison au moment du mouvement Une femme, vie, liberté, et il est sorti de prison après. Il a eu tout à fait envie de... il a regardé plein de vidéos qui ont été prises par des personnes à Téhéran ou ailleurs. Voilà, qui étaient prises au téléphone portable, etc. dans les appartements. Il a réussi à faire ce film en clandestinité, c'est-à-dire il était très peu présent sur les scènes parce qu'il y avait la censure iranienne qui interdisait absolument ce type de film qui parle de la vie d'une famille dont le père est juge et qui va se retrouver, enfin juge non, il va monter en grade, mais il va se retrouver à émettre des jugements au moment...
Des sentences de peine de mort.
Voilà, au moment de ce mouvement, et on sait que les sentences, c'était la peine de mort pour faire peur aux jeunes et les faire arrêter de manifester leur opposition au régime. Et donc, ce film raconte un peu tout ce qui peut se passer à ce moment-là. Avec, dans cette famille, il y a deux filles jeunes qui, elles, sont plus attirées, on va dire, par ce qui se passe. Enfin, ça leur correspond plus. Une mère qui est entre les deux. Et c'est vraiment un film très, très passionnant. Ouais. Voilà. Et,
Il dure plus de 2h30. Eh bien, c'est... on n'a pas décroché. Vraiment, c'est... Alors, il est en version originale.
Après, il y a peut-être en version française, je ne sais pas. Nous, c'était une version... Voilà, c'était la version...
Non, je ne pense pas qu'il ait été doublé en français.
Je ne sais pas, non.
Mais c'est vraiment très intéressant. Et puis, ça montre effectivement l'étau dans lequel est pris cet homme, qui est au départ un juriste, qui veut faire respecter la loi et qui se trouve pris dans un système avec toutes les contraintes du gouvernement iranien et toutes les contraintes aussi des religieux. En Iran, et donc il est pris dans un étau où petit à petit il est obligé même de signer des choses qu'il n'aurait pas voulu signer, quoi. Et pour son avenir, et que s'il le fait pas, sa famille risque d'être.
C'est-à-dire que voilà,
il y a des tas de choses qui entrent
en ligne de compte. Et menacé et dénoncé, parce qu'on sent que la société fonctionne comme ça, quoi. Alors,
comme toutes les dictatures, hein, ça repose sur la dénonciation aussi, bien sûr.
Mohamed Rasoulof est parti donc d'Iran. Bon, il a été aidé et par les Français et par les Allemands, parce que le distributeur aussi, il a pu faire sortir le film, qui était déjà très compliqué. Parce que de toute manière, en mai, il allait être condamné encore à la prison. Donc c'était pour lui aussi une possibilité, la seule possibilité de pouvoir sortir, ou sans ça on allait le retrouver en prison. Et il s'est beaucoup inspiré de ses interrogatoires pour le film. Donc c'est important aussi de savoir ça. Et il y a au moins trois comédiens qui ont pu s'échapper d'Iran. Et les gens qui sont restés, qui ont participé à ce film, sont menacés, sont inquiétés. La famille aussi. Enfin, on imagine aussi ce qui se passe. Donc allez le voir.
Et le titre, Le figuier sauvage, il l'explique tout au début du film. C'est vraiment, c'est magnifique en fait comme titre, d'avoir trouvé ce titre-là. Si vous allez voir le film, vous comprendrez ce que c'est.
On n'en dit pas plus, mais on vous le conseille fortement.
Oui, parce qu'on va laisser la place à Manu et on a plus beaucoup de temps
au laboratoire, et donc c'est un film qui illustre
tu dois y aller, Didier. Après tu pourras parler les nombreuses
informations qu'on vous a données au niveau des émissions aussi sur la situation en Iran.
Voilà, mais c'est pas un film.
Et c'est un film qui est soutenu par Amnesty International, bien sûr. Donc voilà, les graines du figuier sauvage. Alors, info locale, et on s'arrêtera là. Info locale, on en a juste deux. Donc, notre prochaine émission, c'est le mardi 15 octobre. La prochaine émission d'Amnesty sur la promotion et la défense des droits humains. Et déjà, vous pouvez noter sur votre agenda, le vendredi 25 octobre à 19h30, on va faire une soirée débat à la Brasserie Sport, qui nous invite gentiment. Et on va présenter un film qui a été fait par Amnesty International France, qui s'appelle « Présumé coupable », et qui traite des répressions policières en France, principalement pendant la période des manifestations des Gilets jaunes. Donc, soirée débat, le vendredi 25 octobre.
On a encore le temps de l'annoncer la prochaine fois.
On en reparlera, à la Brasserie Sport à Gravigny.
Bon, voilà. On va dire au revoir.
Voilà que je tousse.
Voilà.
Voilà. On rend l'antenne et on
bonsoir
se dit.
Bonsoir à tous.
Rendez-vous le
bonsoir.
15.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.